Chapitre 11. Dans la cabine avant. Le yacht blanc étincelant est amarré entre deux bateaux au poste d'amarrage de la police maritime à Dalareux. Les grandes barrières en acier du port sont ouvertes. Yona avance lentement sur la route caillouteuse, passe devant une fourgonnette violette et une remorque dont le treuil est rouillé, se gare et sort de sa voiture. Il repasse un à un les événements dans sa tête. Un bateau abandonné a été retrouvé à la dérive dans l'archipel. Une jeune femme noyée est assise sur la couchette avant. Le bateau est à flot, mais les poumons de la jeune femme sont remplis de l'eau saumâtre de la mer. Il prend un instant pour observer le bateau à distance. L'avant est sérieusement endommagé. La violence de la collision a marqué l'étrave de profondes entailles. Il compose le numéro de Lennart Johansson, de la police maritime.
« Lance !»
répond une voix vive.
« C'est bien Lennart Johansson à l'appareil ?»
demande Yona.
« Oui, c'est moi-même. »«
Je m'appelle Yona Lina, Rikskrim. »
Silence dans le combiné. Yona perçoit ce qui pourrait être le clapotement des vagues.
« Le yacht que vous avez cueilli, je me demandais s'il avait pris l'eau. »«
Pris l'eau ?»«
À l'avant, la coque est abîmée. »
Yona fait quelques pas vers le bateau et écoute Lennart Johansson expliquer d'un ton désabusé.
« Mon Dieu, si on me donnait un centime pour chaque beurré qui fracasse. »«
J'ai besoin d'examiner le bateau, »
l'interrompt Yona.
« Cherchez pas. En gros, ça a dû se dérouler comme ça. Quelques jeunes de... je ne sais pas, disons ceux d'Ortelieu. Ils piquent un bateau, ramassent quelques filles au passage, naviguent un peu, écoutent de la musique, font la fête et picolent. Dans le feu de l'action, ils heurtent quelque chose. » Le choc est assez violent et une fille tombe par-dessus bord. Les gars stoppent le bateau, font demi-tour, retrouvent la fille et la remontent sur le pont. Lorsqu'ils s'aperçoivent qu'elle est morte, ils paniquent et ils flippent tellement qu'ils se sauvent.
Lennart se tait et semble attendre une réponse.
« Pas mal comme théorie, » dit Yona lentement.
« Pas vrai ?»
répond Lennart d'une voix gaie.
« Faites-moi confiance, ça vous évitera de vous déplacer jusqu'à Dalareux. »
« Trop tard !»
dit Yona qui se dirige vers un des bateaux de la police. Un bateau d'intervention 90E est amarré à l'arrière du yacht. Sur le pont, Yona aperçoit un homme qui doit avoir dans les 25 ans, bronzé, torse nu, un portable vissé à l'oreille.
« À vous de voir, il suffit de téléphoner pour réserver la visite guidée. »«
Je suis là maintenant, et je crois vous voir si vous êtes à bord d'un des bateaux de la police. »
Est-ce que j'ai l'air d'un surfeur ?
L'homme bronzé lève la tête avec un sourire et se gratte la poitrine.
Plus ou moins, répond Yona.
Il raccroche et se rejoignent. Lennart Johansson enfile une chemise d'uniforme à manches courtes qu'il boutonne en descendant la passerelle. Yona fait le salut des surfeurs. Lennart sourit. Ses dents blanches éclatantes ressortent sur son visage bronzé.
Je surfe dès qu'il y a la moindre ride. C'est la raison pour laquelle on m'appelle Lance.
« Tout s'explique, »
répond Yona sèchement.
« N'est-ce pas ?»
dit Lennart en riant. Il s'approche du bateau et s'arrête sur le quai près de la passerelle.
« Un Storebro 36 Royal Cruiser, »
dit Lennart.
« Bon bateau, mais assez fatigué. Immatriculé au nom de Björn Almskog.
Vous l'avez contacté ?»«
Pas encore eu le temps. »
Ils inspectent de plus près les dégâts à l'avant du bateau. Il semble récent, il n'y a pas d'algues dans la fibre de verre.
« J'ai fait appel à un technicien, il ne devrait pas tarder, »
dit Yona.
« Elle a reçu un bon ramponneau, »
dit Lance.
« Qui est monté à bord depuis qu'on l'a trouvé ?»«
Personne, »
s'empresse-t-il de répondre. Yona sourit en attendant patiemment une vraie réponse.
« Moi, bien entendu. » hésite Lennart. Et Sonny, mon collègue. Et les gars de l'ambulance qui ont récupéré le corps. Notre technicien scientifique, mais il a utilisé des plaques de cheminement et des gants de protection.
C'est tout ?
En dehors du vieux qui a trouvé le bateau.
Yona ne prend pas la peine de répondre. Il observe l'eau qui scintille devant lui, en repensant à la jeune femme étendue sur la table d'autopsie de l'aiguille.
Est-ce que vous savez si le technicien a fait des relevés sur toutes les surfaces?
Il a fini le sol et filmé les lieux.
Je monte à bord. Une passerelle étroite et en mauvais état a été fixée entre le quai et le bateau. Yuna embarque et demeure un moment sur le pont arrière. Il laisse son regard balayer lentement les lieux, observe les objets sans se presser. C'est la première et dernière fois qu'il va pouvoir examiner la scène du crime en l'état. Chaque détail qu'il enregistre pourrait s'avérer crucial. Des chaussures, un transat renversé, un drap de bain, un livre de poche jauni par le soleil, un couteau au manche en plastique rouge, un seau attaché à une corde, des canettes de bière, un sac de charbon, une combinaison de plongée dans une bassine, des tubes de crème solaire. À travers la vitre, il devine le salon, la timonerie et les meubles en bois verni. Depuis un certain angle de vue, les empreintes de doigts sur la porte vitrée sont révélées par les rayons du soleil. Des mains qui ont poussé la porte, l'ont refermée, se sont appuyées lorsque le bateau tanguait. Yuna entre dans le petit salon. Le soleil de l'après-midi se reflète sur le vernis et les chromes. Un chapeau de cow-boy et des lunettes de soleil sont posés sur les coussins bleu nuit du canapé. À l'extérieur, l'eau clapote contre la coque. Il examine le parquet usé jusqu'au bas de l'étroit escalier qui mène à l'avant du bateau. Il y fait noir comme dans un puits, et Yuna ne peut rien distinguer avant d'avoir allumé sa lampe torche. Le faisceau de lumière glaciale éclaire le raide escalier. Le bois rouge luit. Son apparence est moite, comme à l'intérieur d'un corps. Les marches grincent sous ses pas. Il imagine la jeune femme seule dans le bateau. Elle plonge depuis l'avant et se cogne la tête contre un rocher. Ses poumons se remplissent d'eau, pourtant elle parvient à remonter à bord, enlève son bikini mouillé et enfile des vêtements secs. Ensuite, elle s'est peut-être sentie fatiguée et s'est rendue jusqu'à son lit. Elle n'avait pas conscience de la gravité de ses blessures. Elle ne réalisait pas qu'une hémorragie entraînait rapidement une augmentation de la pression intracrânienne. Le cas échéant, l'aiguille aurait pourtant dû trouver des traces de l'eau qu'elle aurait régurgitée. Ça ne colle pas. Après avoir descendu l'escalier, il passe devant la kitchenette et la salle de bain pour rejoindre l'avant. Bien que le corps ait été transporté au service médico-légal de Solna, une odeur de mort persiste dans le bateau. Yuna éprouve toujours la même sensation. Muet, comme saturé de cris, de combats et de silence, les objets semblent lui renvoyer son regard. Soudain, le bateau grince étrangement et penche sur le côté. Yuna attend un moment, aux aguets, puis continue jusqu'à la cabine avant. La lumière estivale pénètre par les hublots disposés le long du plafond et se répand sur une couchette double qui épouse la flèche que dessine l'avant du bateau. C'est ici qu'on l'a retrouvée, assise. Un sac de sport bâille sur le sol, à côté d'une chemise de nuit à pois. Un jean et un gilet léger gisent près de la porte. Une sacoche est suspendue à un crochet. Le bateau tangue à nouveau et une bouteille en verre roule sur le pont au-dessus de sa tête. Yuna photographie le sac sous divers angles avec son portable. Le flash semble rétrécir la pièce, comme si l'espace d'un instant, les murs, le sol et le plafond se rapprochaient. Il décroche délicatement la sacoche du crochet pour la porter en haut. L'escalier grince sous son poids. Un tintement métallique parvient jusqu'à lui depuis l'extérieur. Une fois qu'il a atteint le salon, il est surpris par une ombre passant devant les portes vitrées. Yuna recule d'un pas dans l'obscurité de l'escalier.